Radio Cité Genève.
Genève internationale. Épiphanie Monfo.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Genève internationale. Notre invitée est son Excellence Madame Chantal Chambou-Mouavita, récemment nommée ministre des Droits Humains de la République démocratique du Congo, présente à Genève dans le cadre de la 57e session du Conseil des Droits de l'Homme se déroulant du 9 septembre au 11 octobre. Cette figure engagée dans la défense des droits des femmes, des prisonniers et des personnes vulnérables a accepté de se confier à nous. Originaire du Sud Kivu, cette ancienne avocate a consacré sa vie à la promotion des droits humains, combinant son expertise juridique et son engagement communautaire. Fondatrice de l'association Univers de paix pour le développement, elle œuvre pour l'assistance aux détenus et à l'autonomisation des femmes via des centres de formation et un service de microcrédit. Sa nomination, disais-je, au gouvernement RD congolais en mai 2024 marque une nouvelle étape dans son combat avec une responsabilité accrue pour améliorer la situation des droits humains en RDC. Entretien. Bonjour Madame la Ministre Chantal Chambou-Mouavita.
Bonjour Monsieur.
Vous êtes depuis peu nouvelle Ministre des Droits Humains en République démocratique du Congo. Quelles sont les priorités que vous avez fixées depuis que vous dirigez le ministère des Droits Humains?
Eh bien, comme vous le savez, être d'abord Ministre des Droits Humains, ça veut dire que vous êtes le syndicat des citoyens auprès du gouvernement. Ma priorité, c'est de rétablir la dignité, donc restaurer la dignité des peuples congolais.
Vous avez pris la parole à la 57e session du Conseil des droits de l'homme qui a débuté le 9 septembre dernier. Quel est le message que vous avez transmis en présence du haut commissaire des droits de l'homme, Volker Türk?
En fait, ce que j'avais demandé, c'est que nous puissions renforcer notre engagement en tant que membres de la communauté internationale. Donc, il était plus que temps pour nous de renforcer notre engagement pour agir avec détermination afin de pouvoir protéger les droits humains, éradiquer l'impunité et apporter une aide concrète aux populations les plus touchées par la dégradation des droits humains.
Excellence, Madame la Ministre, la RDC est-elle candidate ou pas pour devenir membre du Conseil des droits de l'homme?
Si, la République démocratique du Congo est candidate pour devenir membre du Conseil des droits de l'homme, oui.
Il y a une autre actualité, elle est même mondiale, en ce qui concerne la crise de Mpox. Comment la République démocratique du Congo gère-t-elle cette crise?
Cette crise, vraiment, elle est humanitaire. C'est vrai qu'il y a des échantillons chez nous. Il y a quelques personnes qui sont déjà mortes et atteintes de cette maladie. Mais le gouvernement congolais, en partenariat donc avec le Japon, aussi les États-Unis, qui nous donnent des vaccins déjà. Donc notre politique pour le moment, c'est de prévenir cette maladie, donc vacciner la population et aussi guérir ceux qui ont déjà été atteints.
L'autre actualité RD congolaise, Madame la Ministre, c'est celle survenue il y a peu, donc en début de mois de septembre, à la prison de Makala, à Kinshasa, la capitale, où au moins 129 détenus ont trouvé la mort lors d'une tentative d'évasion. Une enquête est ouverte, mais comment en est-on arrivé là?
En fait, j'étais à la prison avant d'arriver ici. Je suis allé voir en tant que ministre des Droits Humains, j'ai accompagné la première ministre, il y avait le vice-premier ministre et le ministre de l'Intérieur. Nous sommes allés là-bas. On nous a expliqué comment c'était arrivé. Il y avait d'abord coupure d'électricité. Vous savez, à Kinshasa, il fait très chaud. Alors, les prisonniers n'ont pas supporté ça. Ils ont détruit la porte. C'était au pavillon 4. Et ils ont ouvert les autres pavillons. Alors, ils ont avancé pour quitter. Arrivé à la porte, au dernier pavillon pour sortir, il y a le pavillon des femmes. Arrivé là-bas, ils ont demandé aux femmes de faire un bouclier, être devant pour qu'eux puissent partir, parce qu'ils se sont dit que si ce sont des femmes qui sont devant, peut-être il n'y aura pas de représailles. Les femmes ont refusé parce qu'ils ne savaient pas, ils n'étaient pas dans les deals, ils ne savaient pas pourquoi ils vont partir, et les meneurs ont commencé commencé à violer les femmes. C'est vraiment très catastrophique parce qu'il y a une femme qui est morte de viol. C'est comme ça que c'était arrivé. Ils ont brûlé les dépôts, là où on garde à manger. Ils ont brûlé même les dispensaires, là où il y avait quelques malades. Grâce à Dieu, personne n'est succombé de brûler. Mais en tout cas, ils ont détruit la prison, ils sont partis.
Qu'est-ce qui explique aussi cette tentative d'évasion, cette mutinerie? Est-ce dû à une surpopulation de cette prison, la prison de Makala à Kinshasa?
Bon, ce que je peux vous dire, un prisonnier, sa première intention quand il est en prison, c'est de quitter, de chercher toutes les voies et moyens pour partir. C'est vrai que nos prisons sont surpeuplées à ce jour, surtout la prison de Makala qui a été construite avec la capacité d'accueil de 1500 prisonniers. Aujourd'hui, ils étaient jusque-là à 15 000. Malgré les désengorgements, donc l'État congolais a pris la décision à travers les ministres de la justice de commencer le désengorgement de la prison. Et c'est ce qui avait commencé, c'était déjà quelque chose, un avancement par rapport à mettre les prisonniers dans des conditions un peu humaines. Mais bon, ces jours-là, ils ont décidé de partir. Malheureusement, c'est une évasion qui a mal tourné. Sur 129, 105 sont morts d'étouffement. Et les autres, à partir des sommations, on les a demandé de ne pas fuir. Ils ont refusé et ils ont eu le malheur d'être tués. Mais les autres, c'était par étouffement. Quand ils fuyaient, et vous voyez la surpopulation et tout.
Excellence, Madame la Ministre, vous avez travaillé longtemps sur les questions de violence sexuelle, notamment dans les zones de conflit. Donc en référence à ce drame survenu début septembre, on en parlait il y a encore un instant, vous avez même parlé des femmes qui malheureusement ont été violées. Plus largement, quelles nouvelles initiatives vous comptez lancer pour intensifier la lutte contre ces violences sexuelles en RDC, notamment celles perpétrées par des groupes armés?
Vous savez, c'est devenu une monnaie courante chez nous. Nos agresseurs utilisent les viols, donc la violence sexuelle, comme arme de guerre. Nous sommes en train d'interpeller la communauté internationale pour qu'ils nous aident à suspendre cette guerre. Donc les violences sexuelles aujourd'hui, c'est devenu une arme de guerre.
Comment améliorer donc la prise en charge des victimes de violences sexuelles en termes de justice, de santé mentale et de réinsertion socio-économique?
La première intervention, comme les récents viols des femmes prisonnières, notre première intervention, c'est d'abord les apporter les médicaments dans moins de 72 heures pour éviter la maladie, le VIH, SIDA et d'autres maladies infectieuses et pour éviter des grossesses indésirables. En plus de cela, il y a un suivi psychologique pour leur donner l'estime de soi. Vous savez, une femme, quand elle est violée, à un certain moment, elle a l'impression d'avoir perdu sa dignité. Donc ça, c'est aussi pris en charge par les psychologues et nous sommes en train de leur apporter aussi des formations qualifiantes pour qu'elles puissent se prendre en charge, donc devenir indépendantes, financièrement indépendantes.
Vous êtes familière avec les risques auxquels font face les activistes en RDC, et là je parle de notre domaine. Quelles mesures prenez-vous pour assurer leur sécurité, leur liberté d'expression?
Pour le moment, les chefs de l'État, notre président Félix-Antoine Tshisekedi, avait fait une ordonnance pour protéger les activistes des droits de l'homme ou les défenseurs des droits de l'homme. Nous travaillons de commun accord avec eux. En tout cas, pour le moment, ils sont à 100%. Les défenseurs des droits de l'homme sont vraiment protégés. Sauf quelques-uns parce qu'il y a des restrictions. Quelqu'un qui va insulter, qui commet une infraction d'outrage à l'autorité, il ne peut pas se faire passer pour liberté d'expression. Vous voyez, la liberté d'expression est consacrée, oui, mais il y a des exceptions. Vous ne pouvez pas lancer des propos provoquants ou bien offensants.
Vous êtes donc à la tête du ministère des Droits humains en République démocratique du Congo. Est-ce que vous comptez mettre en place des programmes d'éducation aux droits humains pour sensibiliser les populations vulnérables, particulièrement dans les régions rurales où l'accès à la justice est limité?
Oui, bien sûr. Vous savez que pour le moment, chez nous, nous sommes en train d'implanter la justice transitionnelle. Cette justice, ça va dans les coins et recoins du pays. Là où il n'y a pas de tribunaux, nous allons y installer des justices transitionnelles. juvénile pour pallier à ces genres de questions, à ces genres de problèmes.
Pendant que nous enregistrons cet entretien, cette interview, se tient l'Assemblée des organisations non gouvernementales de l'OIF à Paris. Il est question de ce qu'il y aurait des enfants Koulouna, appelés microbes en Côte d'Ivoire, qui seraient condamnés à la peine de mort une fois devenus majeurs en détention, mais les peines non exécutées à ce jour, il y aurait eu des annonces de mise en application. Qu'en est-il exactement?
En tout cas, les enfants Koulouna, chez nous, aujourd'hui, on les appelle les bâtisseurs. Chez nous, ils ne sont pas des microbes. C'est nos enfants qui sont en conflit avec la loi. Les chefs de l'État a demandé à ce que ces enfants-là puissent aller être transférés à Kanyamaka CC, où ils vont apprendre des métiers, en fait, d'être utiles pour la nation. Et jusque-là, ces enfants sont en train d'être transformés de Koulouna en bâtisseurs.
Vous êtes originaire du Sud Kivu, une région touchée par des conflits armés. Comment votre expérience pourra-t-elle influencer votre approche pour améliorer les droits humains à l'échelle nationale?
Notre expérience, c'est la résilience. Nous sommes un pays pacifique. Chaque fois qu'il y a des problèmes, nous allons vers la paix, vers les pourparlers. Ce n'est pas une faiblesse, mais c'est ça notre façon de faire.
Madame la ministre Chantal Chambou-Moivita, je vous dis merci d'avoir répondu à ces quelques questions pour le magazine donc Genève International diffusé quotidiennement sur Radio Cité Genève. Avant de nous quitter, est-ce qu'il y aurait un message d'espoir à adresser à la population, à la diaspora congolaise qui vous écoute en ce moment?
Je demanderai à la diaspora congolaise, chers frères, chères sœurs, compatriotes, de se ranger derrière le président Félix-Antoine Tshisekedi pour rétablir la paix, pour restaurer la dignité des peuples congolais. Que nous cessions de nous attaquer entre nous. Les erreurs sont faites pour être corrigées. S'il y a une erreur quelque part, il faut qu'ils viennent vers nous pour qu'on les corrige ensemble. Et vous savez, on dit que le conflit n'est pas fatal. La fatalité, c'est la façon de gérer les conflits. Donc, si on gère les conflits en pacifiste, les conflits peuvent se gérer aussi en pacifiste. Mais si vous voulez gérer les conflits avec violence, ça va perpétuer la violence. Venez ensemble et travaillons pour l'intérêt de notre pays. Nous avons un bon pays, riche. Et la richesse du Congo, ce n'est pas seulement les minéraux, ce n'est pas seulement les airs ou les flores et faune, c'est la densité. C'est le nombre de Congolais, c'est le nombre de main-d'œuvre, des intellectuels. C'est ça notre richesse. Alors, venez pour que nous puissions au moins investir dans la potentialité humaine que d'investir dans ces minéraux qui nous causent des problèmes aujourd'hui.
Merci à vous, Excellence, Madame la Ministre Chantal Chambou-Moivita. Merci également à toutes et à tous et belle suite de journée sur Radio Cité Genève 92.2 FM.